après ce magnifique voyage dans l'espace et le temps, que nous a entraîné notre ami Michel Philippe, nous allons revenir en question. Je dois dire que les observations du paléontologue et celles du préhistorien spécialiste de l'art pariétal souvent se complètent, s'interrogent mutuellement. Nous avons souvent besoin l'un de l'autre. Et d'ailleurs, récemment, nous avons publié ensemble une étude d'un panneau de la Grotte des Merveilles qui montre que nous avons là, dans la Grotte des Merveilles à Rocamadour, une magnifique scène représentant un lion des cavernes attaquant une antilope saïga. Voilà. Et ensemble, nous avons fait cette identification et je l'en remercie encore. Voilà. Alors, ce que nous allons... nous sommes à Pêche-Mer ici. Et je vais prendre peut-être ma...
Tiens.
Voilà. Nous sommes à Pêche-Mer. J'ai fait le plan de la cavité. Voici l'entrée. L'entrée est ici. L'entrée primitive était une sorte de caverne verticale, hein, un puits. Et les galeries occidentales, les galeries orientales, qui se nomment le Combel. Et alors, j'ai fait la répartition, bien sûr, des vestiges, des traces laissées par les hommes dans la grotte, et la répartition des vestiges laissés par les ours des cavernes. Les ours. Cavernes ou ours bruns. Comme vient de nous l'expliquer Michel.
Si c'était possible, on aimerait bien que le
conférencier... Ah oui, excusez-moi. Excusez-moi, alors quoi, où est-ce que je vais me placer? Je peux prendre le...
Oui, mais Michel, oui, vous pouvez vous asseoir.
Non, parce que j'ai besoin d'expliquer les images là. Bon, après ça va. Ça vous gêne là? Bon, voilà. Alors ici, vous voyez, ce sont les parties de la grotte qui ont été intensément fréquentées par l'homme préhistorique, par l'homme de Cro-Magnon, en quelque sorte, puisque l'ensemble des décors de Pêche-Mer se situe entre 28 000 et 30 000 ans. C'est du Gravessien, c'est du Paléolithique supérieur, bien sûr. C'est un peu plus récent que la grotte Chauvet, apparemment, mais c'est quand même très ancien dans le Paléolithique supérieur. Alors, les parties qui ont été intensément fréquentées par l'homme, ce sont bien sûr la salle préhistorique ici. C'est là que se situe le panneau des chevaux ponctués, le célèbre panneau de Pêche-Mer, et aussi le grand plafond aux tracés digitaux, le plafond des hiéroglyphes. Nous avons là, ici, la frise noire, la corniche, et ici se trouve une gravure d'ours, une tête d'ours que je vais vous montrer tout à l'heure. Et dans la partie orientale, la partie du Combel, eh bien, les parties qui ont été peintes par l'homme préhistorique, ici, sont les parties les plus étroites, les plus difficiles d'accès, où il faut ramper souvent, où il faut se glisser dans des chapières, alors que cette partie-là est beaucoup plus vaste, beaucoup plus spacieuse. Or, si on voit la zone, le même plan, vous voyez, avec la répartition des zones intensément fréquentées par les ours, celles où les vestiges sont le plus nombreux, c'est-à-dire des griffades, bien sûr, en quantité, vous en avez vu des exemplaires tout à l'heure dans la grotte Chauvet, dans la grotte de Souillac et la grotte Chauvet, mais aussi des couchages d'ours ou des bauges d'ours, si vous voulez, c'est-à-dire des endroits qui font à peu près des cuvettes, à peu près de 2-3 mètres de diamètre, qui montrent que les ours venaient hiberner, peut-être aussi, même c'était des nurseries, puisque, comme nous l'a expliqué Michel, les femelles mettaient bas en début d'hibernation à cet endroit-là. Donc nous avons des bauges, nous avons des griffades, nous avons des ossements en quantité. Alors, surtout dans cette partie-là, que l'on appelle, que l'abbé Le Mozy a baptisé l'ossuaire, justement, parce qu'il avait trouvé énormément d'ossements et de griffades d'ours des cavernes. Voilà, donc l'ossuaire. On a aussi des traces d'ours des cavernes avec des lissages, des polis de parois, des griffades aussi en quantité, même des coprolites ici, dans cette partie-là, la salle des pas, où il n'y a pas de peinture, il y a simplement des empreintes de pas humaines sur le sol argileux. Et par contre, au Combel, eh bien, il y a, c'est dans les zones les plus vastes qu'on a là, alors il y a 40 couchages d'ours ici, dans cette partie-là, des bauges d'ours, 40, je l'ai appelé d'ailleurs le dortoir des ours. Et alors c'est très curieux cette répartition, parce qu'il semble bien qu'il y ait une sorte de complémentarité, c'est-à-dire les zones occupées par l'homme sont différentes des zones intensément occupées par les ours des cavernes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce type de répartition? Ben, la question se pose, c'est que peut-être bien, il y a contemporanéité, c'est-à-dire que les ours et les hommes utilisaient la même grotte au même moment, ensemble, et de façon, bien sûr, alternative. C'est-à-dire, moi j'imagine que les ours utilisaient la grotte pendant l'hiver, et que pendant l'été, c'était l'inverse, c'était les hommes qui descendaient peut-être au printemps dans la grotte pour faire des peintures et accomplir des rites associés à ces peintures. Voilà, parce que il y a eu des datations qui ont été faites ici sur les ossements de l'ossuaire, des datations qui ont donné 38 000 sur des ossements des ossements d'ours des cavernes. Et j'ai fait 8 sondages dans la grotte, j'ai trouvé dans les parties profondes aussi des ossements d'ours qui ont été identifiés par Madame Delpech, que Michel a bien connu. Et d'ailleurs, dans ces ossements, il y avait à la fois de l'ours de Deninger et de l'ours des cavernes. Donc ça veut dire que les ours ont habité dans la grotte avant que les hommes viennent faire des peintures. Mais quand les hommes ont commencé à faire des peintures, aux environs de 28-30 000 ans, eh bien les ours continuaient à habiter la grotte, et sans doute les hommes ont accepté de donner une partie de la grotte, de laisser une partie de la grotte aux ours des cavernes. Et je comprends que... ils évitaient de se trouver, comme l'a dit Michel tout à l'heure, ils évitaient de se trouver au même moment dans la grotte. Parce que, alors il y a d'ailleurs, je ne sais pas si vous en souvenez, une scène de la guerre du feu de Jean-Jacques Hano qui m'a beaucoup fait rire, où on voit un homme de Cro-Magnon qui, à l'entrée d'une grotte, découvre d'un seul coup, se trouve face à un ourson. Et alors il est ému par ce petit ours qui est magnifique, il s'apprête à le caresser. Et à ce moment-là, derrière lui surgit la mer, qui mesure 3 mètres de hauteur, dressée sur ses pattes arrière. Et ça, c'est une scène, bien sûr, d'un cinéaste qui a perdu le contact avec la nature. Parce qu'un paléolithique, un homme de Cro-Magnon, n'aurait jamais fait ça. C'est-à-dire que s'il avait vu l'ourson, il se serait immédiatement méfié, en sachant que la mer n'était pas loin. Alors voilà ce qui se passe maintenant. Alors c'est autre chose, et quand tout à l'heure tu nous as expliqué la relation entre les griffades et certaines tracées de Chauvet, nous avons ici un phénomène à peu près semblable à Pechmerle. Alors c'est dans la galerie du Combel, on a un petit boyau, l'entrée d'un boyau, et nous avons trois griffades principales d'ours des cavernes, A, B, C. Et en même endroit, nous avons des tracés, des mains frottées avec les doigts enduits d'ocre rouge pour laisser des traces juste à côté de ces griffades, comme pour imiter les griffades. D'autre part, il y a ici de l'ocre rouge qui a été posé sur la griffade A. Et ici, ce sont des tracés humains, des tracés digitaux, mais très appuyés pour faire une sorte de, elle aussi, de griffade humaine, vous voyez, en profondeur, hein, et associée aussi à de l'ocre rouge. Donc là, les hommes ont imité les griffades d'ours des cavernes. Donc ça rejoint ce que nous avons vu tout à l'heure un peu à Chauvet. Il y a donc, je ne sais pas s'il faut parler, moi aussi je suis très prudent en ce qui concerne le culte de l'ours, parce que la belle Mosille avait imaginé le culte de l'ours, comme beaucoup d'autres historiens à son époque, mais aujourd'hui il faut être prudent. Là, simplement ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des tracés, des mains frottées humaines, des traces de de frottement avec la main qui imitent, qui sont situés à côté de ces griffades et qui les imitent. Je signale d'ailleurs que la main humaine avec les doigts écartés a à peu près la même dimension que les griffades d'ours. Les griffades d'ours des cavernes ont à peu près le même empattement, si vous voulez, la même largeur que ces tracés humains en général. D'ailleurs, nous avons une série de ce type de tracés ici, dans les grottes du Quercy, nous en avons assez souvent, même à Pougnac, et à Pêchemer et dans d'autres grottes. Voilà, alors maintenant, c'est le 3. Voilà, merci. Voilà. Alors nous avons ici un cas intéressant de griffade d'ours des cavernes dans la grotte dans la galerie du Combel. C'est un massif stalagmitique, très, très tendre, c'est une roche spéciale, la stalagmite, la calcite, qui est un peu plus tendre que le calcaire et qui certainement devait intéresser les ours des cavernes. La matière elle-même a appelé en quelque sorte la griffade, le contact avec la patte de l'ours, parce que l'ours marquait son territoire de cette façon. Et alors les ours font des griffades dans toutes les directions. C'est-à-dire, là, ce massif se trouve à peu près à 1 mètre 50 de hauteur, et on a des griffades dans ce sens, on a des griffades comme ceci, d'autres griffades verticales un peu dans tous les sens, et même des griffades plus longues que d'autres. Et alors, la même aussi, alors que dans sa première partie de sa vie, avait fait un travail remarquable, mais à partir de 1950, la Belmosi a parfois été moins performant qu'au début de sa carrière. Ce sont des choses qui arrivent. Et là, il a interprété ces griffades comme des gravures humaines. Alors, je peux avoir. Merci. Oui, alors. Voilà. Alors, voici ce massif, toujours qui est rappelé ici, avec les griffades dans diverses. Et il les a interprétées. Voilà le relevé de la Belmosi, fait en 1953 ou 4, parce que le Combel a été découvert en 1950. Et il les a interprétées comme un homme masqué. Voilà la tête et la machin. Et même, il est allé jusqu'à dire que c'était peut-être un homme blessé. Alors c'était une représentation extrêmement intéressante, un homme blessé, on en avait un autre dans la grotte, qui était peint, celui-ci, et Madame Dams, une préhistorienne de Belgique, qui passait dans les environs, a vu le Combel, et elle en a fait, cette fois-ci, alors elle a confirmé que c'était bien un homme, puisqu'elle a rajouté un sexe, n'est-ce pas, un sexe masculin, et que c'était bien certainement un homme masqué, blessé, avec un mâle, enfin avec toutes les qualités que l'on pouvait espérer et souhaiter. Et puis, moi j'ai fait le relevé en détail. Alors, on peut voir la suivante s'il vous plaît. Merci. Alors voilà le relevé de ce panneau. D'abord, il y a une grande griffade juste au-dessus. Et ici, bon, et bien, ce sont tout simplement un assemblage, des griffades superposées de différentes directions, mais ce sont des griffades d'ours, rien de plus. Ce n'est pas du tout une gravure humaine. Donc voilà, les préhistoriens peuvent quelquefois se laisser piéger par leur imagination. Et d'ailleurs, c'est là le but des relevés. Aujourd'hui, faire des relevés, c'est essayer vraiment de déchiffrer la paroi avec la plus grande attention, en essayant d'être au maximum le plus objectif possible. Alors voilà la gravure d'ours, de tête d'ours de Pêchemerle. Vous voyez, l'œil, l'oreille, les narines, la gueule ici. Et il y a deux traits en plus verticaux. Je ne sais pas ce que sont ces traits, qu'est-ce qu'ils représentent, je n'en sais rien. En tout cas, c'est une tête d'ours, effectivement. Alors, voilà la suite. Voilà le relevé. C'est une tête très détaillée, d'ailleurs, avec tous les éléments. C'est rare, d'ailleurs, d'avoir une gravure aussi précise, aussi détaillée que celle-ci. À Pêchemerle, du moins. Alors, d'abord, restons avant, s'il vous plaît. Oui, parce que là, la question se pose, ours brun, ou bien ours des cavernes. L'ours des cavernes, comme vient de l'expliquer Michel Philippe, notre ami Michel, c'est qu'il y a un stop, une rupture. Là. Le front est bombé, et puis une rupture, et de nouveau le museau part comme ça. Tandis que là, c'est un front, c'est une tête, un crâne assez rectiligne, comme ça. Donc on peut penser à un ours brun. Mais la question, moi, je reste dubitatif, parce que, allez, montrez s'il vous plaît. Alors, l'ours brun actuel, effectivement, a le crâne bien rectiligne, comme ça. Seulement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes dans le domaine artistique. Ces images, ce sont des œuvres d'art que nous voyons. Ce sont des créations humaines, ce ne sont pas du tout des planches d'anatomie. Donc, là, je réagis en tant que préhistorien, spécialiste de l'art pariétal. Et je voudrais faire une petite digression au sujet des bisons. Alors, allons-y. Parce que à Pêche-Mer, voilà les bisons. Alors, certains bisons de Pêche-Mer, les voici, qui ont des formes assez variantes. Alors, les biologistes à l'heure actuelle qui étudient l'ADN ont distingué, Michel me rattrapera si je fais une erreur, mais ont distingué principalement deux espèces de bisons, le bison priscus et le bison bonasus. Priscus ou bison des steppes et bonasus c'est le bison qui a donné le bison européen de l'Europe de l'Est, encore vivant dans certaines régions d'Europe de l'Est. Alors, à Pêche-Mer. Voyez ici, c'est peut-être un bison priscus. Il a une hauteur de voûte comme ça, très importante. Celui-ci semble un peu plus modeste, de plus en plus allongé. Et celui-là, alors, c'est un bison bonasus complètement désespéré, complètement déprimé par la fonte des glaces, peut-être, et qui s'allonge lamentablement, n'est-ce pas, il est complètement avachi. Et, or, ces bisons ont été faits par le même artiste. D'abord parce que, en général, il présente une projection de l'avant-train, un développement anormal de l'avant-train, qui fait que la partie, les antérieurs sont situés presque au milieu de la longueur du corps. De plus, nous avons une tête angulaire, en forme d'angle droit. Nous avons la figuration, d'ailleurs, du souffle ou de la langue qui sort. Et même, j'ai trouvé des détails. Ici, par exemple, le fanon est représenté par un zigzag, un fin zigzag, comme là, ici, de la même façon. Donc, c'est le même auteur, ces bisons, ont été faits par la même personne. Donc, je mets en doute le fait que ça puisse être un bison priscus en haut. D'ailleurs, ce bison qui fait le priscus, là, il cadre à champ total, n'est-ce pas? Il utilise toute la surface d'un gros bloc, un énorme bloc, le bloc suggérant la massivité et la corpulence de l'animal. Donc, il s'adapte au cadre. Celui-là, il s'étale comme un bonasus, il s'allonge le long d'une corniche. Il y a donc adaptation au support, et ça, c'est un phénomène artistique. Nous sommes là dans le domaine de la création artistique, et pas de la, de planche d'anatomie. C'est pas. Alors donc le spécialiste, le biologiste, qui ne connaît pas disons, les détails de ces figurations, la façon dont elles évoluent, les œuvres qui ont été faites par la même main, par le même compos, peut être tenté de dire, voilà, de faire des identifications en disant ça c'est un priscus, ça c'est un bison bonasus, alors que probablement c'est un seul et même bison, qu'il soit priscus ou bonasus, je n'en sais rien. Voilà. Et donc, je reviens à l'ours. Est-ce qu'il s'agit d'un ours brun ou d'un ours des cavernes? Moi, simplement sur ce dessin, je ne sais pas, en tant que préhistorien, spécialiste de l'art préhistorique, je ne sais pas si c'est vraiment un ours brun ici à Pêche-Mer. J'ai tendance à penser que c'est sans doute un ours brun, mais cette seule figure ne suffit peut-être pas pour l'affirmer tout à fait. À l'avant. Voilà. Alors, nous sommes. Voilà, voici maintenant la grotte de Rocadour. L'ours de Rocadour, nous avons découvert cet ours. Voilà, la tête est ici. Là. La bosse du dos. Voilà le profil dorsal. La patte arrière est ici. Le ventre, là. Et le poitrail est ici. Il y a une patte qui est là, il y en a une autre ici. Vous allez voir le relevé. Nous avons étudié la grotte de Rocadour qui se trouve sur le col de Gramac, la commune de Témines, pendant une dizaine d'années avec une équipe d'une douzaine de personnes. Nous avons fait une école de relevé. J'avais invité des étudiants de l'université de Toulouse, d'autres de l'université de Bâle et d'autres étudiants encore. Et nous avons fait chacun, mon épouse travaillait aussi dans cette équipe, et nous avons fait chacun des membres de l'équipe avait un relevé à faire, un panneau à relever. Voilà, maintenant nous sommes en train de préparer la publication générale complète. Alors en avant, s'il vous plaît. Voici le relevé, effectué d'ailleurs de façon excellente, parce que j'ai bien sûr surveillé étroitement le travail de tous ces archéologues en herbe, si on peut dire, qui ont effectué ces relevés. Et ce relevé est extrêmement précis, parce que non seulement il représente les détails du support, notamment au numéro 2 ici, ce sont des griffades. Nous avons étudié les griffades à Rocadour. Ce sont principalement d'ailleurs des petites griffades qui ne sont pas des griffades d'ours, mais des griffades de renard, de blaireau, etc., d'animaux récents qui sont par-dessus la gravure. Alors, il y a deux choses à remarquer. Bon, le schématisme de la tête. Alors ici, évidemment, qu'est-ce que c'est ? Ours brun, ours des cavernes. Il n'y a plus le stop que nous voyons sur le crâne même qui est présenté ici, il n'y est plus. Seulement attention, c'est une figure très stylisée, très stylisée. Et remarquez ici un détail, le numéro 3, c'est tout simplement une patte de cervidé, patte arrière de cervidé, qui a été ajoutée à cet ours, n'est-ce pas, à l'emplacement d'une patte arrière, le numéro 3. Et là, nous avons manifestement un animal composite, je ne sais pas pourquoi, un artiste, un graveur a ajouté cette patte de cervidé qui s'ajoute au dessin de l'ours. Mais ça prouve que nous sommes dans le domaine de l'imaginaire, dans le domaine artistique. Donc, quel est cet ours-là ici, sur le seul dessin? On va voir un peu plus loin le relevé. Voilà. Voilà le relevé dans ce qu'il a. Vous voyez, les deux pattes avant de l'animal avec sa puissance sont bien tout à fait exprimées. On a, dans ce relevé pour seulement montrer l'ours, on a supprimé la patte arrière de cervidé qui venait s'ajouter ici. Et vous voyez, c'est un animal quand même, la tête est très stylisée. Alors ça, évidemment, si on s'attache au profil du crâne, il a plutôt le profil d'un ours brun que d'un ours des cavernes, puisqu'il n'a plus le stop marqué que l'on a sur les ours de caverne. Donc, moi, je ne sais pas. Et voici la troisième figure d'ours du Quercy. C'est l'ours de la grotte de Sainte-Eulalie. Vous voyez ici, le crâne bombé, le nez, ici, la mâchoire, même la gueule qui est indiquée ici, une ébauche de l'œil et le poitrail ici, peut-être le ventre qui est là. Mais c'est très surpris dans de nombreux autres traits gravés. C'est une paroi très gravée, mais abîmée, parce que nous sommes à l'entrée d'une vaste grotte qui a servi de bergerie pendant très longtemps, pendant des siècles, de bergerie et d'étable. Et les animaux se sont frottés contre la paroi et ont supprimé beaucoup de gravures. Malheureusement, parce que c'est une grotte d'une très grande richesse, j'y ai relevé plusieurs dizaines, 70 ou 80 figurations superposées. J'ai pu faire des dates, quand même, des fouilles qui ont montré que ces gravures datent de 15 000 ans. Aujourd'hui, calibrées, ça fait 17 000 ans à peu près. Et c'est du magdalénien moyen. Et certaines de ces gravures sont de toute beauté. Alors, allons-y. Voilà le relevé, en faisant abstraction des autres traits qui l'encombrent. Là, ça fait penser. Alors, vous voyez, là, on a un front assez bombé, et qui est un peu différent de l'ours gravé de Pechmerle, et même de Rocadour. Donc là, s'agit-il d'un ours des cavernes? Là, ça ressemblerait davantage à un ours des cavernes. C'est possible. Michel nous a expliqué tout à l'heure que l'ours des cavernes australe était contemporain et en est duré jusque vers 15 000.
Absolument. Et il y en a beaucoup d'ours fossiles dans la région.
Dans la région.
Alors que dans l'Ardèche, par exemple, il y en a beaucoup moins.
D'accord. Alors, je fais une toute petite digression pour m'en donner un aperçu de ces gravures de Sainte-Eulalie qui sont magnifiques, que l'on connaît très peu. C'est une grotte privée, évidemment. Alors, vous avez là, ici, plusieurs têtes de rennes emboîtées les unes dans les autres. Vous avez un profil dorsal, un profil de cheval, ici. Voilà la tête, la queue, la patte arrière, un cheval sans tête. Et il y a un magnifique cheval, ici, dont vous avez la tête, ici, le poitrail, les yeux, vous allez voir le détail. Allez-y. Alors, la tête de cheval de Sainte-Eulalie, qui est, évidemment, là nous sommes dans le Magdalénien moyen, c'est-à-dire dans une époque plus récente que Pechmerle. Et là, les artistes ont abandonné le réalisme intellectuel, en quelque sorte. Ils ne représentent pas ce qu'ils savent, mais ce qu'ils voient réellement. C'est le réalisme visuel. Et donc ce cheval est magnifiquement vivant, il est présent, il a une présence formidable. Regardez tous les détails dans l'œil. Il y a les cils qui sont des cristallins qui est indiqué. La crinière aussi est suggérée. Et surtout, il y a plusieurs versions de l'oreille. Au moins trois ou quatre versions de l'oreille, parce qu'il est représenté, à cette époque, on représentait le mouvement, la vie de l'animal, en mettant plusieurs versions de pattes ou d'oreilles pour montrer qu'il est vraiment vivant. Alors, voilà un autre exemple de gravure magdalénienne, la biche de Père Vouzet, qui pour moi symbolise vraiment ce que j'ai tendance à appeler le miracle magdalénien, qui annonce en quelque sorte le miracle grec, parce que là c'est d'une beauté parfaite. Les formes sont idéalisées, même en quelque sorte, comme dans l'art grec, et ça, c'est vraiment notre l'origine de notre art occidental. Il est là parce qu'en Australie, nous avons d'autres tendances complètement différentes. Mais ça, je suis très heureux de vous le montrer parce que c'est peu connu et c'est une des plus belles figures de l'art du Quercy, certainement. Allez. Alors, je savais qu'il y avait un ours, à Carendac. Et je suis allé à Carendac pour retrouver, je n'ai pas revu cet ours. Et alors, mon épouse m'a dit, mais si, il existe. Et je suis revenu avec mon épouse, elle m'a montré cet ours, il est sur l'archivolte. Moi, je le cherchais en bas du tympan, mais non, c'est un ours sur l'archivolte de Carendac. Et vous voyez, c'est un ours, alors, brun ou ours des cavernes. Eh bien, il se pourrait que là, ils aient dessiné un ours des cavernes, vous voyez, le front bombé, le stop bien marqué. Alors, oui, seulement, il date du 12e ou 13e siècle de notre ère. Donc, l'artiste n'avait pas sous les yeux l'ours des cavernes. Il avait c'était fini, ça. Hein. Donc, ça prouve que nous sommes là aussi en présence d'une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, c'est un ours, des montreurs d'ours, avec sa corde au cou, et puis à laquelle est attachée une barre de bois qui entrave ce pauvre animal. Mais la fourrure est bien représentée, les larges pattes fourrées aussi avec la fourrure, etc. sont très claires. Voilà, c'est un bel ours, probablement un ours brun quand même. Alors, il lui a fait une tête d'ours des cavernes. Allons-y. Et là, en voici un autre ours, en Quercy, c'est parfait, ouais, c'est Collonges. c'est l'ours de Colombes, vous voyez. Avec, c'est le montreur d'ours. Voilà le montreur d'ours. L'ours avec sa barre de bois. Et là encore, le stoff est très marqué. Et là encore, il a une tête d'ours des cavernes. C'est très curieux. Hein? Donc, ce qui prouve que il faut être prudent pour identifier certains. Et en Quercy paléolithique, nous avons seulement trois figurations d'ours en Quercy paléolithique. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des gravures d'ours des cavernes ou d'ours bruns? Il est impossible de le dire.
Oui, alors, pour compléter, il est certain que chez l'ours brun actuel,
oui,
les mâles ont déjà le stop, le marqué que les femelles.
Ah, voilà. Donc,
ça c'est sûr.
Voilà, les mâles qui nous permettent, on ne sait pas. D'accord.
Au musée à Lyon, enfin, je dis au musée à Lyon, j'ai beaucoup travaillé, on a un crabe d'ours brun qui vient des Carpates. S'il n'y avait pas les premières, les deuxièmes, troisièmes prémolaires,
on
dirait que c'est un ours des cavernes. Ouais. C'est un
peu peut-être pas compliqué.
Voilà, donc c'est difficile à comprendre. Ils n'ont pas fait d'étiquette en marquant que c'était ça. Voilà. Quand même. Ah.
Maintenant, si vous avez des questions à poser, c'est le moment, parce que moi j'en ai une quand même. Moi je trouve que cet ours qui est un peu, enfin pas un peu, qui est mythique, cet ours qui se transforme en ours enchaîné ou tiré par un montreur d'ours, comment est-ce qu'on a pu passer aussi facilement, est-ce que c'est volontaire, d'une sorte de culte de l'ours, qui n'est pas prouvé, à un ours carrément enchaîné. J'ai lu quelque part que ça serait une réaction contre l'ours. Autrefois était un culte païen, on le trouve en Grèce, auprès de la déesse Artémis, et progressivement, l'Église aurait cherché à combattre ce mythe païen. Mais je voudrais votre avis.
En tout cas, là, cette ours...
On est au 12e siècle,
qui est maîtrisé, qui est complètement voilà. Dominé. Il n'est plus, c'est plus un animal sauvage.
Exactement. Alors, par contre, le début de la domestique, enfin, de la domestication, on s'en parlait, de l'ours brun, non pas Chartres, au début du Vercors, juste à côté de Grenoble, il y a un ours brun, hein, qui a lié les dames et tout, c'est vraiment un ours brun, et dont on voit très bien la mandibule qui a été abîmée de deux côtés, parce que très certainement, c'était tenu par un lien.
Voilà.
Donc certainement, et ce qui date, de l'Asilien, ça date de 8000 à peu près. Donc les montreurs d'ours, enfin on présume que c'est peut-être... Ça remonte peut-être à beaucoup plus vieux que ce qu'on croyait, autour de 8000 ans. J'ai l'ours là.
D'abord, Romain, en tout cas, je crois que l'ours c'est un symbole négatif, c'est-à-dire que l'homme doit maîtriser l'animal comme il maîtrise ses pulsions de mal et ses mauvaises pulsions. Dans la Roma.
Oui, pour prêcher le contraire, l'ours est justement un animal qui est très proche de l'homme. C'est le seul animal plantigrade, vraiment plantigrade, comme une. Parce qu'on dit que les animaux sont plantigrades, mais ils sont les doigts et un peu une partie, mais pas la totalité de la plante des pieds. Est-ce que là, oui. Et c'est vrai que quand on dépèce un ours, moi j'en ai jamais dépecé, mais après j'ai vu des photos et tout. Et qu'on le parlait en plus pour le déplacer, ça ressemble assez étrangement à un squelette, à un homme déplacé. Alors, juste oui, donc en même temps, c'est peut-être le contraire, un rapprochement, que ce serait pratiquement l'animal le plus proche de l'homme.
Oui, mais dans le bestiaire romain, je crois que c'est un élément négatif.
Ah oui, mais il y a beaucoup de choses négatives dans le bestiaire romain.
Et même souvent, il est défiguré, il est déformé, même, il devient presque un monstre.
Ah, mais ça.
Si vous permettez, je vais vous dire un mot. Un livre que j'ai lu, peut-être que parmi vous l'avez lu,
monsieur.
C'est un livre de M. Pastoureau.
Oui,
Pastoureau qui parle de ce problème de
le vestiaire. Le vestiaire.
Et tout le, l'ours qui est devenu lentement, disons, banni, qui a été.
Oui.
Alors qu'au départ, c'était, dans les pensées anciennes, un peu, vraiment, un peu notre égal.
Voilà,
un peu notre égal. Et petit à petit, l'Église a fait en sorte que l'ours devienne un banni. Et a été remplacé, notamment dans certains moments, par le lion. Par le lion, d'après M. Pastoureau, qui a dit par hasard, c'est intéressant à voir comment ça a changé au cours du Moyen-Âge pour essayer de l'enclencher. Par rapport dans l'église, on parle au niveau de l'église.
Mais c'est un livre qui est dans ma bibliothèque et que.
Si vous permettez, je dirai un autre mot dans le village, je m'arrête après. Je parlais d'un monsieur que M. Michel Philippe a. Rencontré, c'est M. Jean-Dominique Lajoux, qui est un chercheur au CNRS et qui a qui est vraiment à fond sur l'histoire du culte de l'ours. Alors, je vous dis sincèrement, je l'ai amené dans ma grotte et je lui ai montré que c'était pas possible que transporté tous ces ossements dans la grotte. Il n'y a pas de traces humaines dans la grotte. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que ce monsieur, quand il a fait, semble-t-il, beaucoup de temps au niveau de l'Arctique, là-haut, et qu'il a ramené beaucoup de légendes qui sont encore, semble-t-il, plus ou moins en vigueur dans ces peuples de, du nord de l'Arctique, de la Sibérie, notamment. Et il resterait, semble-t-il, encore des légendes qui sont transmises de bouche à oreille. Voilà. Alors, le livre qu'il m'a envoyé parle un peu de ça. Mais après, bien sûr, il parle à fond sur le culte. Et là, par contre, on peut être très dubitatif. Pardon, excusez-moi. Je sais que vous avez eu beaucoup d'émêlés avec vous.
Non, mais justement, Dominique Lajoux, c'est pareil. C'est la petite histoire, si vous voulez, mais on venait de finir la fouille à la Balmacolor, donc dans les années 96-97. Et. Il m'envoie un courrier en disant je voudrais voir la Balmacolor, etc. Justement, pour cette histoire de culte de l'ours fait par les Néandertaliens. Et je lui ai dit que c'était pas possible, parce que la grotte, elle a été pillée au début et tout, donc maintenant elle est vraiment protégée, un peu comme la grotte Chauvet, mais il faut à peu près 2 heures pour ouvrir la porte, et il n'y a que 4 personnes qui sont habilitées pour le faire. Voilà. Et il a cru que je ne voulais pas. Et puis. Lorsque le musée de l'ours a été créé en 2002, l'année d'après, on a fait un grand rassemblement de tous les spécialistes ou gens qui s'intéressaient à l'ours des cavernes et même aux ours fossiles en général. Il y avait 53 spécialistes. Il y avait pratiquement tous les spécialistes de l'ours à l'époque. Et bien sûr, l'excursion, on peut dire une excursion, c'était la visite de la Balmacolor. Il est monté. Il a eu un mal fou d'ailleurs. Il est monté 600 mètres de dénivelé. Bon, et ben, c'est pareil, même truc. Et après, comme ça, j'ai vu la douce et je lui ai dit et alors, Néandertal, vraiment, vous croyez qu'il a monté là-bas des milliers d'ours des cavernes pour les congeler pour leur culte? Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Excusez-moi. Mais je voulais vous poser une question. Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'ours des Pyrénées. Je fais partie des anciens qui ont côtoyé Jojo. Peut-être que vous le connaissiez. C'est un ours qui a été trouvé par les enfants des pupilles de la nation de Borse. C'est un ours que j'ai revu 20 ans après, pas mal, dans les années 85-86, et il est mort l'année suivante. Or, cet ours-là, il me semblait beaucoup plus grand que les ours bruns. C'était un ours qui était apprivoisé, qui avait été ramené par les enfants après une partie de campagne. Avez-vous entendu parler de cet ours? Parce que ce qui m'a toujours surpris, malgré les efforts de M. Rose, qui était le directeur des pupilles, qui avait voulu conserver cet ours apprivoisé dans l'institution, il n'y a jamais eu de prélèvement de sperme, il n'y a jamais eu de prélèvement de sang. Et enfin, son parc à ours a été. Il voulait faire un parc, il n'a jamais trouvé les fonds Et quelques années après, il a récupéré deux autres ours qui venaient, je crois, de Slovénie, mais en fait, il n'avait rien à voir. Bon, il y a cet ostracisme par rapport aux ours, me paraît assez surprenant. Ceci d'autant plus qu'il faut reprendre vos arguments sur l'ours. La plupart des églises romanes ont des représentations aussi. Or, ces représentations il y a pas mal en Dordogne, beaucoup aussi par ici. Alors, ces représentations appartenaient à la religion chrétienne que nous ont amené les Goths, qui représentait ces ours, car ils étaient des médiateurs entre Dieu et les hommes. Et ont été supplantés, effectivement, à partir du génocide des ours après le Xe siècle, par les catholiques qui ont imposé un autre médiateur qui est le lion. Alors, c'est la question, avez-vous des informations sur Jojo? Sur la taille d'abord. Hein.
Oui, non, a priori non, parce qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout. Mais globalement, la taille des ours est quelque chose de très variable. Et si on parle de l'ours des Pyrénées, la race pyrénéenne, c'était un ours de petite taille. Donc, s'il s'agissait d'un ours qui était d'un montreur d'ours ou autre, qui après serait resté dans les Pyrénées. Non. Parce que bon, les ours de Slovénie sont déjà bien plus gros en taille que l'ours brun des Pyrénées. Le grizzly c'est un ours brun, le kodiak c'est un ours brun, et les tailles sont vraiment très différentes. En plus, il y a un dimorphisme sexuel très important. Les femelles sont en gros deux fois plus petites et pèsent deux fois moins en poids que les mâles. Donc c'est difficile à répondre à votre question, mais je crois que globalement, les ours des Pyrénées, sous espèce pyrénéenne, étaient de petite taille. Et celles des Alpes étaient encore un peu plus petites. Voilà.
Moi j'aurais une question. Oui, alors, à la balle de Colomb, là, cette concentration d'os là, est-ce qu'ils ont été piégés?
Les concentrations dans la grotte que j'ai montré?
Oui.
Donc toutes les grottes que j'ai montrées, c'est des grottes d'incarnation. Alors c'est vrai qu'il y a certaines grottes qui ont aussi été des pièges naturels. Mais en général, il y a beaucoup moins de vestiges osseux parce qu'il y a quelques animaux qui se font piéger, mais il n'y en a pas.
Est-ce que ça ne s'est pas effondré qu'ils sont arrivés
coincés? Non, ça non. Mais par contre, j'ai dit que les ours allaient jusqu'au plus fond des galeries et tout, là partout où ils pouvaient passer, même nous, des fois, les spéléos. Mais j'avais fait pour le rassemblement, l'Assemblée générale de l'année dernière de la Fédération française de spéléologie à Nantua, là. J'avais fait une communication sur « ils ont fréquenté les grottes avant nous ». Ils. Ah, bien sûr, c'était pour des cavernes. Et je montrais justement que très souvent, les spéléos croyaient avoir fait de la première. Ouais, c'est ça. Et puis, ah, mince. Il y a des squelettes d'ours, mince, il y a des griffards, etc. Voilà. Mais dans les Pyrénées, j'ai vu avec Fred Maxime, précisément, une grotte qui s'était effondrée en partie, effectivement, et dès l'entrée, qui est maintenant à la lumière du jour absolue, hein, il y avait une quantité phénoménale d'ossements d'ours des cavernes. Et dans la même grotte, il y a aussi des ossements jusqu'au fond des galeries. Mais ce qui prouve bien qu'ils ne fréquentaient pas que le profond des grottes. Ils arrivaient aussi à hiverner pratiquement dans des abysses aux roches. Et j'ai fait la même découverte à Chartreuse, puisque Chartreuse, il n'y a pas que la Balmacolombe non plus, il n'y a pas que dans le Jersey qu'il y a des temps de grottes. Je les connais, je crois. Enfin, toutes celles qui sont connues, je suis allé les voir. Il y a simplement maintenant un abri sous roche qui sert d'abri pour les bouquetins. Et c'est pareil, là on a fait un sondage officiellement avec l'autorisation du service régional de l'archéologie. Il y a des ossements sur 25-30 cm de profondeur, d'ours bruns. Donc, ils allaient hiverner facilement, oui. En général, l'ours des cavernes, plus profondément que ne le faisait l'ours brun. L'ours brun reste globalement plus près des entrées, hein, mais généralement, mais il y a toujours des exceptions. Mais l'ours des cavernes était aussi capable d'hiverner pratiquement juste dans un abri sous roche et non pas dans une grotte profonde.
Michel, est-ce que tu peux me parler de leur alimentation?
Oui. Ah, oui. Parler de...
Alors l'alimentation, c'est difficile, tout ça. Ben, on, le crâne, on ne voit pas bien les dards, mais quand on regarde les dards, de l'ours, des cadavres de l'ours, ouais, à part les canines. Hein. Les canines sont. C'est pour ça qu'ils sont classés dans l'ordre des carnivores. Ordre des carnivores. Ne confondons pas ordre et régime alimentaire. Voilà. Ça, ça me paraît important. C'est vrai que l'ours, les ours actuels, mangent des petites bestioles, même des fois des plus grosses. Hein. Mais vous savez, l'histoire qu'on attend tant qu'il y a table de moutons qui ont été. C'est parce qu'on est indemnisé, voilà, mais même si c'est des chiens qui les ont traqués, eh ben, comme ça, au moins, ils n'ont pas besoin d'aller sur le marché, ils touchent leur subvention et bien payés. Hein, mieux que si ils avaient vendu. Voilà. Ça, c'est comme ça. Il y en a qui sont. C'est Arcus, ça, donc je fais ça. Arcus. Voilà. Donc je fais des chiens. Ah, de l'alimentation, voilà. Mais quand on regarde les dames. Autre que les canines, ce sont des dames qui ressemblent étrangement à celles de sangliers, par exemple. Elles sont très larges, avec des petits mamelons et tout, et non pas des cuspides comme le tigre ou comme les félidés, etc. Et ce qui est, rien qu'en voyant ça, on peut dire que c'est un animal qui est essentiellement végétarien. Et c'est vrai que les régimes actuellement des ours. Brun actuel, que ce soit en Slovénie, que ce soit dans les Pyrénées, que ce soit, c'est entre 60 et 70% de végétaux. Ouais, oui, oui. Sauf le fameux. Et oui, parce que, en plus, c'est ça. Et oui, parce que c'est tellement facile de prendre en photo les ours quand ils attrapent les saumons là-bas, je ne sais pas trop où là-bas. Donc, toutes les photos qu'on voit des ours, ils sont en train d'attraper des poissons, ils ne mangent que des poissons, les ours. Ils doivent être intelligents. Hein. Voilà. Et en réalité, c'est pendant quelques jours qu'ils font ça, quand les saumons remontent, mais le reste du temps, ils mangent de tout. C'est vrai qu'au point de vue régime, on ne peut pas dire qu'ils soient herbivores non plus, végétariens non plus. Ils sont omnivores, mais ils sont quand même essentiellement végétaux. Essentiellement. Et l'eau, attention, alors par contre, ça c'est important, le René Caverne, beaucoup plus que mon point actuel. Il a les dents encore plus larges et avec beaucoup plus de mamelons, etc. C'est quelque chose de flagrant quand on voit les deux crânes, on va dire l'autre. Crâne et mandibule.
Et vous, on n'a jamais mangé, non ?
Moi ?
Non, mais l'homme n'a jamais.
Ben, l'homme, il est un peu comme l'ours, hein, quand il trouve quelque chose à manger, voilà. Il le mange. Hein. Voilà. S'il trouve un ours qui vient de mourir et qui n'est pas encore trop fécondé, je me mets à la place de Cro-Magnon. Hein. L'ours a certainement un peu été chassé aussi, certainement. Mais on a très peu de preuves. On a quelques os d'ours où il y a un silex qui l'a. Mais il y en a quelques-uns, et ils sont publiés, bien sûr. Hein. Mais sur des centaines de milliers d'ossements qui existent dans les grottes.
Parce que il parle de ces ours qui étaient mangés, chassés,
oui.
Mais par des princes. C'est un moyen, il en parle. C'était pour le prince qui permettait d'affirmer sa puissance.
Oui, et on commençait par les pattes en principe,
voilà, etc.
Il y avait tout un tas de processus. Ben oui, parce que les pattes, parce que ça, elles sont proches de l'homme et tout. Donc.
Et la fenêtre Vélin va combien de petits et combien de froid dans sa vie? J'ai une question locale, elle est brève. La grotte des Fieux, est-ce qu'on y a trouvé la présence de l'ours? Alors peut-être piégé, puisque c'est peut-être un lieu de piégeage, ou est-ce qu'il a été, disons, locataire de la grotte?
En tout cas, il n'y a pas de représentation d'ours dans la grotte des Fieux, il n'y a aucune figuration d'ours. Je l'ai étudié en détail, je n'ai pas vu non plus de griffas d'ours. Donc, je pense que la présence de l'ours aux Fieux est très discrète. Peut-être qu'il a existé dans l'ensemble des ossements trouvés dans les fouilles, mais en tout cas sur les parois aux Fieux, sa présence n'est pas discernable. Moi, il y a une chose qui m'étonne dans tout ce que nous venons de voir, c'est l'abondance des ossements d'ours sur les sols et dans les fouilles, et par contre, sa rareté quand même sur les parois. La rareté parmi les figurations.
Ah, parmi
les figurations par l'état. Je veux dire, les figurations, je ne dis pas les griffards. Mais l'ours n'est pas un animal fréquemment représenté par les artistes du paléolithique, par les hommes du paléolithique supérieur. Il n'est pas fréquent. Il est présent, dans le, l'ensemble des thèmes de l'art pariétal, mais ce n'est pas un thème dominant. Par contre, on a par exemple les lions des cavernes, il y en a 92, je crois, à Chauvet.
Hein, oui, mais il y a aussi pas mal d'ours à Chauvet.
Il y a Chauvet, mais
il y en a moins.
Il y en a
que lui. Alors qu'à Chauvet, on a on a repéré et identifié, je veux dire, 4200 et quelques vestiges osseux, 98% c'est de l'ours des cavernes, le reste c'est un peu de tout, du loup, du mouquetin, etc. Mais s'il y a tant d'ossements d'ours dans ces grottes-là, qui sont des grottes à hibernation, c'est parce qu'ils venaient régulièrement et tout, ils y restaient des mois et des mois, et que de temps en temps, il y en a un qui mourait, et ça se concentre très bien dans les grottes. Dans les endroits où il n'y a pas de grottes, on dit qu'il n'y a pas eu d'ours. Mais parce qu'ils n'ont pas été conservés. Il y en avait, mais quand ils mouraient, ben, quelques jours, trois semaines après, ils étaient commencés à charogner par les corbeaux, par les renards, et ils se sont pas conservés. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Voilà. Alors que dans les grottes, ça se conserve.
Les lions des cavernes, par exemple, il y en a 23 lions à Ancadou, il y en a 90, etc., plus même à Chauvet. Donc, c'est curieux, le lion qui est un carnivore, lui aussi, et le lion est présent, est bien présent. Il est présent dans toutes les grottes ornées du Quercy, pratiquement, le lion. Donc, l'ours, c'est bizarre.
Alors, pour répondre quand même à la question globalement, l'ours des cavernes, si on parle de l'ours des cavernes, c'est quand même le cousin germain de l'ours brun. Hein. Pour son éthologie, c'est vrai qu'on se sert beaucoup de la comparaison avec l'ours brun, ce qui paraît normal, au point de vue de sa reproduction. En gros, au début de l'hibernation que l'accouchement, avec la mise au bas a lieu. En principe, comme chez l'ours brun, on présume, il devait y avoir deux, trois oursons, mais qui étaient allaités par la mère jusqu'à la sortie au printemps, donc pendant 3-4 mois. Hein. Ce qui fait que beaucoup de jeunes femelles, notamment, à 5 ans, la première mise au bas, sont mortes parce qu'elles n'ont pas pu, elles n'avaient pas suffisamment pris les précautions de se nourrir, de faire des provisions de greffe, etc. À Laval-Macolon, on a pratiquement la moitié des femelles qui sont mortes à 5 ans. C'est l'âge de la première mise au bas. Bon, donc en gros, il y avait 2-3 oursons, mais il y en avait facilement un, des fois deux, même, qui mouraient avant même de voir la lumière du jour. Bon, en principe, si on compare avec l'ours brun, la mère reste avec les petits, ou plutôt les petits restent avec la mère pendant tout l'été, etc., et retourne hiberner avec elle. Ouais. Et c'est qu'au sortir de la deuxième hibernation que là, la femelle leur dit « Oh, oui hein, !» bon. Et du coup, qu'elle s'accouple le nouveau. Donc en gros, c'est que tous les deux ans qu'il y a une portée de 2-3 oursons, dont en général, il n'y en a qu'un ou deux qui vivent, qui survivent. Ce qui justifie quand même que c'est une espèce animale qui n'a jamais été bien abondante. Ça peut être surprenant avec tout ce que je vous ai montré, comment se marie tout. Mais c'est que ça, les ossements, ça a été accumulé pendant des milliers d'années. Hein. Mais il y avait certainement jamais beaucoup d'ours en même temps qui vivaient dans cette région. Hein. Et d'ailleurs, parce qu'il fallait qu'il y ait suffisamment de nourriture, de proie, etc., hein, les prédateurs sont toujours moins nombreux que les nations qui sont mangées.
C'est compensé par la longévité.
Non.
Non.
Non, parce que les ours bruns actuels et les autres ours aussi, l'ours du Tibet, quand ils vivent à 23-24 ans, ça paraît être un maximum. Donc si leur première mise de bas c'est à peu près à 5 ans, des fois 4, mais en général 5, 6, tous les deux ans, ça fait jamais combien, ça fait même pas 10 mises de bas.
Les autres animaux, ils mourraient à l'extérieur.
Pardon ?
Les autres animaux mourraient à l'extérieur. Donc on va laisser les traces, on va laisser l'autre.
Oui, oui, non, mais je veux dire.
Le lion, il ne peut peut-être pas dans les grottes.
Alors, des lions, il y en a qui sont morts dans des grottes, il y en a, etc. Oui, mais enfin, moi je pense qu'il y avait plus de lions que dans des cavernes en même temps sur les mêmes territoires. Mais on les retrouve moins parce que quand ils ont été piégés dans des grottes ou autres, on en retrouve des vestiges. Bon, il y a celui de celui-là qui est piégé. D'accord. Mais Donc, la grande différence, c'est que le tour des cavernes hivernait pendant des mois, et il y en a qui mouraient, voilà. Oui. Alors que les lions vivaient essentiellement à l'extérieur.
Écoutez, nous aurons une pensée pour notre ours des cavernes. Nous venons de découvrir que c'était une femelle. Grâce à monsieur, c'est sûr. Je ne sais pas à quoi vous
l'avez vu. C'est un ours des cavernes, c'est sûr. Parce que je...
Donc c'est sûrement c'est un ours des cavernes et c'est une dame. Donc moi, pour conclure, parce qu'il est vraiment quand même presque 11h du soir, on va vous inviter à boire un pot et puis dire que l'ours, c'est une conclusion toute personnelle, mais l'ours que les enfants adorent, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a tenu tant à avoir cette conférence. Quand on voyait les petits à qui on disait « Tiens, c'est 3 mètres de haut, il était presque aussi... » La salle fait 3 mètres 50 en gros, vous voyez un peu la hauteur. Donc ils étaient émerveillés, et c'est la raison pour laquelle ils nous ont remercié infiniment. Nous avons pu faire cette conférence, et disons que l'ours s'est racheté, entre guillemets, avec Teddy Bear. Hein, c'est pour ça que tous les enfants aiment les petits ours. Voilà.
Alors, mais quand même, les oursons, hein, les fameux oursons, est-ce que vous savez que ça, c'est jamais qu'en 1910 que les oursons ont été lancés sur le marché. 1910. Avant, ça n'existait pas.
Ah, merci à Roosevelt. Une chose qu'on pourrait encore dire, mais là je crois qu'il est 11h du soir. Alors, on vous invite à prendre des boissons et un superbe dessert de gâteau préparé par Catherine Espé. Merci.